sirènes gueulent et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission radio de l'Envolée, en direct sur Radio Fréquence Paris Pluriel en région parisienne, 106.3 FM, et rediffusée sur une quinzaine d'autres radios associatives en France au cours de la semaine suivante. On remercie toutes ces radios au passage, comme d'habitude. L'Envolée, c'est une émission de radio contre toutes les prisons qui donne la parole aux premiers et premières concernés, les prisonniers et prisonnières et leurs proches. Et comme l'Envolée n'existe que par vos contributions, vous pouvez écrire à l'Envolée par la poste. Je vous donne l'adresse, l'envolée-fpp. L'adresse, c'est 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous contacter par email à contact@l'envolée.net. L'envolée tout attaché sans accent.net. Vous pouvez nous contacter par téléphone aussi, donc laisser un message sur le répondeur ou des textos, voire tenter d'utiliser Signal au 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Et sinon, vous pouvez suivre notre activité et nos publications sur le site internet l'envolée.net. Donc toujours l'envolée tout attaché sans accent. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, l'envolée journal, et éventuellement tenter sur X et sur Facebook. Mais on n'y est plus vraiment. Enfin, peut-être qu'on y est parfois. C'est un mystère. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une émission qui a été enregistrée hors les murs, qui va être diffusée le vendredi 7 novembre 2025 sur FPP. Et cette émission aujourd'hui, elle est consacrée aux combats qui font suite à la mort d'Idir Médérès, qui est décédé au mitard de la prison de Lyon-Corba le 9 septembre 2020. Donc on voulait aujourd'hui faire une spéciale pour retracer les 5 années de lutte pour la vérité menée par sa mère Najette et par l'association Idir Espoir et Solidarité. Donc Idir est mort le 9 septembre 2020 au mitard de Lyon-Corba. L'administration pénitentiaire a annoncé directement sa version qui était celle du suicide, à laquelle les proches n'ont jamais cru. Depuis, donc Najette, comme je l'ai dit, sa mère et ses proches se battent pour obtenir la vérité et la justice et pour dénoncer de manière générale les violences pénitentiaires, en particulier les mitards et les quartiers d'isolement. Ils proposent en général 2 rendez-vous annuels. Le premier, c'est à l'occasion de la triste date de la mort de Idir, donc le 9 septembre. Donc tous les ans, à peu près à cette période, il y a une commémoration, un hommage à Idir et une manifestation contre sa mort suspecte. Najette est aussi à l'initiative d'une journée annuelle contre les violences pénitentiaires qui a lieu tous les derniers dimanches du mois de mai depuis. Et dont le but est d'avoir lieu un peu dans différents endroits de France pour fédérer toutes les personnes qui dénoncent les mitards et les violences pénitentiaires. Depuis quelques années aussi, l'association Idir Espoir et Solidarité participe activement à une marche contre les crimes sécuritaires qui a lieu mi-novembre. On vous en reparlera en fin d'émission. Voilà, ce combat, le combat de l'association Idées, Espoir et Solidarité, il s'inscrit dans une longue histoire de lutte contre les violences pénitentiaires. Je pense notamment aux luttes menées par l'AFLID. Alors si je me souviens bien, c'est Association pour faire la lumière en détention, qui a été lancée par des personnes proches de personnes mortes dans des conditions suspectes en prison à Lyon, et qui a, pendant des années, organisé quantité d'actions et d'interventions, et notamment les manifestations du 8 décembre à Lyon qui avaient lieu devant la prison Saint-Paul-Saint-Joseph et ensuite devant la prison de Corba quand elle a ouvert, qui avait pour revendication de faire la lumière au sujet des morts en détention. Dans cette histoire des luttes, on peut se rappeler aussi de l'ARPI, Association pour le respect des proches de personnes incarcérées, qui avait été lancée par des proches de prisonniers et de prisonnières, notamment Catherine Charles, la maman de Christophe Kider, et qui dénonçait les conditions de détention qui étaient faites à ses fils, mais aussi de manière générale qui visait à fédérer les proches de prisonniers et prisonnières pour dénoncer la violence de la prison, les quartiers d'isolement et aussi les morts en détention. Longue histoire de lutte encore, le combat de l'association Idir Espoir et Solidarité s'inscrit plus récemment dans le combat fédéré par le réseau Entraide, Vérité et Justice, qui tente de fédérer depuis des années des collectifs, des comités et des familles de personnes qui ont perdu un proche, soit en détention, soit dans les mains de la police, et aussi de personnes qui ont été mutilées par la police ou par les agents de l'État. Voilà, donc je voulais resituer le combat de l'association Idir Espoir et Solidarité dans cette longue histoire de lutte. Et ce qui est très important et ce qui a été ajouté, porté par Najet, la maman de Idir, son fils est mort au mitard dans des conditions très suspectes. Elle a tout de suite suspecté qu'il avait subi des violences de la part d'agents et elle a tout de suite annoncé qu'il fallait lutter contre les mitards. Donc les mitards, c'est les quartiers disciplinaires en prison. Et ça nous semble à nous une lutte très importante parce qu'on pense que c'est vraiment ce lieu où toute la violence et la brutalité pénitentiaire se cristallisent. Donc depuis 5 ans, l'association Idir Espoir et Solidarité mène un combat pour la vérité. La maman d'Idir a porté plainte suite à la mort d'Idir en disant qu'il avait été tué. Et l'enquête a été très longue et l'enquête n'a pas été sérieuse du tout, on le verra dans l'émission. Et la juge d'instruction a rendu un non-lieu en juin 2025. Donc un non-lieu, en gros, c'est la justice qui a été saisie et qui dit non, en fait, on ne va pas poursuivre, nous n'avons pas d'éléments pour poursuivre quiconque, on laisse tomber. Et ce qui est très fort de la part de Najet et de l'association Idir Espoir et Solidarité, c'est que depuis ce non-lieu, ça les a d'autant plus motivés. Ils décryptent la machine à fabriquer des non-lieux, la machine à couvrir les violences d'État, les violences des agents pénitentiaires ou des policiers, et ils mettent sur la place publique le dossier afin de montrer que l'enquête a été vraiment pas sérieuse. On se demande bien pourquoi. Donc c'est pour retracer un peu toute cette histoire qu'on va faire une émission spéciale à ce sujet aujourd'hui. Du 18 au 20 septembre 2025, il y a eu un week-end de commémoration pour Idir et contre les violences carcérales, avec une conférence de presse, puis une manifestation. Aujourd'hui, on va écouter un montage de sons qui ont été pris par l'émission de radio La Petite Cuillère, une émission contre les prisons à Lyon, des amis lyonnais et lyonnaises. On les remercie pour ces sons, on en a fait un petit montage qu'on vous fera écouter ensuite. Et pour commencer, on va écouter un petit mix qui a été réalisé aussi par l'émission La Petite Cuillère et qui retrace 5 années de lutte contre les violences pénitentiaires et pour faire la lumière sur la mort suspecte d'Idir.
Archive sonore de l'émission La Petite Cuillère, octobre 2020.
On voulait évoquer Idir qui est mort le 9 septembre à Corba. Et la famille se bat pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce 9 septembre. Parce que l'administration pénitentiaire a prévenu la famille en disant que Idir s'était suicidé. Mais la famille conteste cette version et aimerait savoir ce qui s'est réellement passé.
Salam alaikum. Voilà, c'était pour en revenir pour l'histoire d'Idjir, pour vous expliquer l'histoire. Et ben en fait, il est plus la finie au mitard. Il s'est embrouillé avec les SS et la brigadière. Et à la fin, ils lui ont fait une clé de bras, et ils l'ont frappé, tout ça. Ils lui ont mis le genou sur le cou. Et il a pas su supporter. Alhmou, il est mort. Et ils l'ont pendu à la fin pour cacher la vérité. Et voilà, là, personne dit rien. Tout le monde s'en bat le zub. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est un truc de malade, à Corban. On est le 6-10-2020.
Donc c'est le témoignage d'une personne qui est à Corba et qui a réussi à laisser ce message par une vidéo. Le témoin, le Y, du coup, celui qui était au mitard avec Idir, il s'est pris en fait 90 jours de mitard. Et comme c'est pas possible de faire plus de 30 jours d'affilée de mitard, du coup, il a pu, en fait, quand il est sorti. De ses 30 premiers jours, il a pu raconter un peu ce qu'il a vu et ce dont il a été témoin. Et puis du coup, la famille a aussi peur un peu de ce qui peut se passer pour cette personne. Il y a eu une marche qui s'est passée le 11 octobre, qui s'est passée à Corba, depuis le marché de Gros jusque devant la tôle, pour demander justice et vérité, pour montrer qu'en fait la famille elle lâchera pas et qu'elle souhaite savoir ce qui se passe.
Maintenant, parole à l'association Idir, Espoir et Solidarité.
Mon fils Idir, c'était quelqu'un de joyeux, bon vivant, toujours souriant, généreux, plein de joie de vivre. Il rendait service à tout le monde, aimé par la famille, les amis, les voisins. Et il n'était pas du tout dépressif, comme ils ont dit. Il était au mandat dépôt, même pas jugé. Il m'appelait tous les jours, même quand il n'a pas de portable et il se débrouille. Son dernier appel, c'était le 4 septembre. C'était le dernier appel. Ils m'ont annoncé sa mort le 9 septembre. Ils disent que c'est un suicide, mais moi, je connais très, très bien mon fils. C'est pas quelqu'un de dépressif. Et d'ailleurs, il a même sauvé un co-détenu du suicide. Comment lui, il sauve les gens, il se suicide, lui. C'est pas normal, ça. Et plusieurs fois, il me racontait qu'il est maltraité par les surveillants. Et moi, je le croyais pas. Moi, je lui dis toujours, il dit respecte-les, c'est respecte. Et il m'a dit, mais maman, il me parle vulgairement, et il m'a dit, il nous traite comme des animaux. Une fois, un surveillant, il est venu le réveiller de bon matin, tôt, avec un trousseau de clés sur sa tête. Il s'est pris la tête avec lui. Et mon fils a fini au mitard. Moi, j'avais peur de détenus. Fais attention, les détenus. Et finalement, c'était les surveillants qui sont des monstres. Même une fois, il m'a appelé, il m'a dit qu'ils veulent me... Maman, ils veulent me tuer. J'ai dit, qui veut te tuer? Il m'a dit, les surveillants. Il était au bout. J'ai jamais vu mon fils... pleurer comme ça. Mais maman. Et après, moi, comme il m'a appelé de la cabine, j'ai parlé à ceux qui nous écoutent. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Je sais que vous m'écoutez, là. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je pose plainte contre vous. Et moi, depuis, je dormais pas. J'avais peur pour lui. J'étais reçue par madame la procureure. Elle m'a rendu le rapport médical. Et ils ont conclu que c'était un suicide. Et l'affaire est classée. Enfin, j'ai posé plainte et j'ai dit, il faut me sortir l'enregistrement.
Comme vous savez, on a créé une association qui s'appelle Association Idir Espoir et Solidarité. On a mis sur les réseaux sociaux une pétition pour radier les quartiers disciplinaires de France. Cette pétition a pour but de dénoncer les faits de cruauté qui se passe en maison d'arrêt dans les quartiers disciplinaires. Le couloir de la mort, dit Mitard. Aujourd'hui, nous avons perdu un frère, un fils, un ami et surtout un citoyen du peuple par des faits de cruauté commis par les soi-disant forces et protecteurs des citoyens de l'ordre. Et nous ne voulons pas que cela soit un perpétuel recommencement. Après plusieurs témoignages, nous avons pu conclure que la mort du défunt Idir Médérès n'était pas due à un suicide, mais d'un meurtre commis par les surveillants. Après une semaine de galère, ils lui ont coupé l'eau et l'électricité, ce qui l'a emmené à s'abreuver avec l'eau des toilettes. Ceci est un acte de barbarie et cela est totalement inadmissible.
Bonjour, je suis la petite sœur de Idir, paix à son âme. Je voulais passer un message à tous les détenus de France. Prenez la parole. Je sais que ce n'est pas facile, mais moi et ma famille, nous combattons contre la violence. Parlez si vous-même avez subi de la maltraitance au Mitard. Aidez-nous à sauver d'autres vies. Nous rassemblons tous vos témoignages. On m'a enlevé mon frère alors que j'avais besoin de lui. C'était mon protecteur. Et me dire que je vais devoir vivre avec ce drame toute ma vie, c'est dur. Donc, mon but, et le but à nous tous, je pense, c'est d'enlever les couloirs de la mort surnommés Mitard. Merci de m'avoir écouté.
Je vous invite à aller signer cette pétition. Vous mettez pétition pour radier les Mitards.
Sur mesopinions.com.
Allez signer, s'il vous plaît, pour sauver d'autres vies. Merci.
Archives sonores de l'émission La Petite Cuillère, janvier 2021.
On a créé une association qu'on a appelée Espoir et Solidarité, IDIR. Ben, on a lancé des appels pour des témoignages et j'ai reçu pas mal de témoignages qui prouvent qu'il y a trop de maltraitance au sein de l'établissement, quoi. Je veux faire passer un message aux détenus. Je veux vous dire qu'il faut briser le silence. Il ne faut pas avoir peur. Et qu'il faut porter plainte et parler des violences que vous subissez. Parlez à vos familles ou à vos avocats. Je sais que c'est un peu compliqué à l'intérieur. Souvent, les plaintes ne sont pas enregistrées ou alors elles n'aboutissent pas. Mais si personne ne parle, ça continuera et ça finira toujours mal. Pour vous, pour vos frères, pour vos proches, pour vos co-détenus, il faut briser le silence. Je veux adresser mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche. Et je veux leur dire, il ne faut pas baisser les bras. On a créé cette association qui s'appelle Association Idir Espoir et Solidarité. N'hésitez pas à nous contacter. L'union fait la force. Il faut que la vérité éclate. Il faut qu'on soit soudés. Merci.
Ok, merci Najette. Merci l'association. Vous organisez une marche le samedi 9 janvier ?
Oui, à l'occasion, on a organisé une marche le 9 janvier à Brigné pour honorer la mémoire de mon fils, paix à son âme, et pour réclamer la justice pour lui.
On ira où la dalle nous mène. Notre histoire, on l'écrira nous-mêmes. Elle m'a dit, c'est pas pour ton buzz que je t'aime, oui, que je t'aime. Et paroles, et que des paroles. Ma seule patronne à moi, c'est Madara. Ils croyaient que j'étais mort, ils ont dit, bon débarras. Heureusement que c'est Dieu qui donne, sinon il nous laisserait nada. Donc j'ai quitté mon village, rêvé d'une vie juste moins minable. Moi j'ai quitté mon village pour plus les entendre me dire que. Personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde. Et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde. Et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Hey, hey, hey. Na, 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 na.
On accueille deux membres du Génépi. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez organiser un cycle de rencontres.
Alors oui, on organise tous les samedis, donc jusqu'au 6 mars, un cycle d'événements sur l'anticarcéralisme. Pour sensibiliser le public, on veut créer des échanges et essayer de construire un peu ensemble une réflexion politique sur la prison. On le fait en partenariat avec le collectif IDIR Espoir et Solidarité. Et on les soutient notamment dans leur lutte pour l'abolition des quartiers disciplinaires ou des mitards. Le dernier samedi, le 6 mars, on va avoir deux ateliers de réflexion collective. Et là, on essaiera de réfléchir à la question de l'abolition du mitard.
Alors, l'abolition du mitard, c'est un sujet de fond qu'on travaille en ce moment, notamment avec le collectif IDIR Espoir et Solidarité. C'est au mitard qu'IDIR a été... qu'il est décédé. En fait, c'est toujours au mitard qu'il y a le plus d'incidents non expliqués en prison, dans des circonstances toujours un peu floues. Donc le mitard, pour vous expliquer un peu, c'est donc le quartier disciplinaire, un quartier spécial où vont les prisonniers et prisonnières lorsqu'ils ont commis une infraction plus ou moins grave dans la prison. Et c'est un peu la prison dans la prison. En fait, le but, c'est de punir une deuxième fois le détenu en infligeant une souffrance psychologique et physique. Donc la cellule, elle peut aller jusqu'à 5 mètres carrés. Et le détenu est isolé. Plus aucune affaire personnelle dans cette cellule. Plus de droits à des activités, plus de droits à des parloirs. Tout ça, ça dure 8 jours minimum, 30 jours maximum, mais en fait, dans les faits, ça peut être reconduit. C'est arrivé à Corba, quelqu'un reste 45 jours dans ce truc infernal. Et le problème avec cette sanction, en plus, c'est qu'elle est décidée lors d'une commission administrative où la paix est juge et partie. Et du fait de l'isolement de ces quartiers, ce qui s'y passe est encore plus invisibilisé que dans le reste de la prison. Et il est très difficile pour les familles d'obtenir des informations fiables sur les événements qui s'y produisent. Voilà, en gros, c'est ça le mitard.
Et par rapport, nous, à nos idéaux politiques vraiment abolitionnistes, l'abolition tard, ça peut avoir un aspect réformiste, mais en fait, c'est vraiment dans la continuité de nos revendications. Parce que le recours au mitard, finalement, c'est toujours l'activation de ce réflexe punitif. Et il faut vraiment casser un peu cette dynamique. Et ça peut commencer à l'intérieur de la prison. Et donc, c'est presque, quelque part, le premier pas des positions abolitionnistes, c'est de lutter contre cette prison dans la prison.
Archives sonores.
Bonjour, aujourd'hui, donc nous sommes début mai 2021. On est avec Najette. Donc, bonjour Najette.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du collectif IDIR Espoir et Solidarité, qui inclut plusieurs familles victimes de l'injustice pénitentiaire, et de nous avoir invités.
Vous avez déjà organisé plusieurs mobilisations, démarches, et là, le 30 mai 2021, vous allez organiser un événement.
Effectivement, on a organisé un rassemblement qui sera une journée de lutte annuelle à chaque dernier dimanche du mois de mai à l'échelle nationale.
Ok, alors on va parler un peu plus tard, on reviendra en détail sur cet événement du 30 mai. Et pour commencer, je te propose de présenter un peu plus globalement votre combat et ce qui vous anime.
Nous menons ce combat contre toutes les violences infligées aux détenus et qui restent impunies, contre tout traitement inhumain que subissent les prisonniers et contre toute humiliation dans toutes les prisons de la France. Et aussi contre tous les éloignements et les transferts des prisonniers sans même aviser leurs proches et sans se préoccuper de la situation financière et la distance de leur famille. Et on lutte pour que ces monstres qui représentent l'État soient punis de leurs actes de barbarie. Eux qui se permettent de décider de la vie ou la mort d'un détenu. Et la plupart, c'est des Noirs et les Arabes. Et aussi lutter pour radier les couloirs de la mort, dit quartier disciplinaire ou mitard. Ils doivent être fermés définitivement. Parce que malheureusement, c'est là où il y a trop de morts et torture plus que suspecte et inexpliquée. Ces fonctionnaires de l'État profitent de leur plein pouvoir et se croient tout permis. Ils exercent leur stratégie de torture psychologique et physique jusqu'à entraîner la mort et par la suite la maquiller en suicide. Parce que ils savent très bien qu'ils sont couverts par leurs collègues et leur hiérarchie et par la justice, bien sûr, en détruisant les familles entières. Et ça dure depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça continue encore et encore. Et cette injustice qui ferme les yeux sans que ces monstres soient jugés et condamnés, ils continuent toujours à exercer ou pour certains sont mutés et montés en grade. Et pourtant, on est dans un pays de droits de l'homme, de liberté, de l'égalité et fraternité. Alors on se demande, ils sont où tous ces droits? Elle est où la vraie justice? Les détenus sont des êtres humains avant tout. Ils ne sont pas des animaux. Ils ne sont pas juste des simples numéros d'écrou. Ils ont des familles. La plupart, c'est des mères et des pères de famille. Ils sont des citoyens français. Pourquoi leurs droits sont bafoués? Qui les protège de ces monstres? Nous, les familles, on exige que la justice soit rendue et que la loi s'applique pour tous. Que ces monstres soient jugés et condamnés de leurs actes monstrueux. Que les vidéos de surveillance soient consultées et bien conservées après un drame. Que la justice prend en considération la parole des détenus et pas juste les surveillants. Que les vraies réponses soient transmises aux familles. Pas des scénarios montés en toutes pièces pour nous faire croire leurs mensonges. Nous demandons que les médecins légistes soient honnêtes dans leurs rapports et qu'ils arrêtent de participer à des mascarades et arrêtez de nous faire croire que nos proches sont suicidaires. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous connaissons très très bien nos proches. Ils ne sont rien d'un suicidaire. Ils ne seraient jamais, jamais passés à l'acte. Les prisonniers ont le droit de purger leur peine dans la dignité et le respect. On fait appel à toutes les familles des détenus pour se mobiliser le 30 mai parce que personne n'est à l'abri. Les détenus sont en danger. Et je fais appel à tous les proches des détenus. Rassemblons-nous pour dire stop à l'impunité faite par les surveillants. Stop aux crimes crapuleux maquillés en suicide. Laissez-les sortir vivants. Et pas comme mon fils Idir, Zemani, Benoît, Bilal, Farid, Khalid, Eidi, Jimouni, Toufik, Jamel, Mehdi et plein d'autres. Paix à leur âme, tous sortis les pieds devant. Et pour lutter contre la prescription de toutes les affaires similaires, quand les familles n'ont toujours pas obtenu de réponse. Et pour dire stop au massacre qui détruit des familles tout entières, qui vit dans leur douleur, leur souffrance, qui attend toujours la vraie justice et la vérité depuis des années, pour pouvoir enfin faire leur deuil et vivre en paix. Tant qu'il n'aura pas de justice, il n'aura pas de paix. Le rassemblement du 30 mai à Lyon aura lieu place Bellecour à 14h. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont répondu à notre appel et vont organiser un rassemblement dans leur ville le même jour à Nantes, Bordeaux, Perpignan, Béziers et peut-être Paris et Saint-Étienne.
Ok, ben on se retrouve dans la rue. Justice pour Jimani. Justice pour Jimani. Justice pour Jimani. Justice pour Jimani.
nationale à l'initiative de l'association Idir Espoir et Solidarité, dont je fais partie, qui est soutenue par le réseau Entraide, Vérité et Justice et par plusieurs collectifs. La pénitentiaire, tout comme le ministère de la Justice, sache que désormais, nous ne laisserons plus de morts tomber dans le silence sans nous mobiliser et soutenir debout auprès de chaque famille. La prison est déjà une grande souffrance. Les prisonniers ne doivent pas en plus y perdre la vie. Nous voulons plus que la pénitentiaire se cache derrière le silence, le mépris, le mensonge dans ces zones de non-droit. Nous voulons que tout le monde voit notre mobilisation et comprenne que nous ne lâcherons plus jamais le combat, même si cela doit durer des années. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Pas de justice,
pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
Pas de justice.
L'amour d'une mère est en soi et personne n'a le pouvoir de le tuer. J'espère que les frères comprennent mes histoires extraordinairement humaines. Dans la vie on n'a qu'une mère, faut la chérir maintenant. Certaines peuvent plus le faire, que Dieu t'apporte la force de la satisfaire. On peut tous mourir n'importe quand, chaque seconde compte donc prends plaisir grand. La plupart du temps les êtres chers on les perd, que Dieu et leurs âmes profitent si t'as encore un père. Nos parents deviennent vieux et ça obsède. Si t'as tout ce qu'un orphelin veut, pense à lui et ce que tu possèdes. Tout le mérite lui revient, il peut juste dire qu'il se souvient. Avant que son cercle familial décède ou le laisse, il était bien comme homme. Depuis il tient le coup, puis tout il se retient de mettre le faux monde. Dédié à tous les gens qu'on aime et qui sont morts. Si je m'exprime mal, excuse-moi, mais lorsque le cœur parle, je panique, je suis comme toi. Faut qu'on soit tous soudés, pour nouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Pour nouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous saoulés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Tous soudés. Là où je vis, on est tous soudés. Tous soudés. L'amour entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs doit rester une puissance, même lorsqu'on se sent seul. Des êtres unis par le sang peuvent aller loin. Donc élucider le mystère et renouer les liens. Pourquoi tant de croire que c'est notre dernière heure? Pour changer de point de vue et reconnaître l'erreur. Maman et papa désiraient fonder une famille soudée. Soudain ils voient tout s'effondrer. C'est jamais trop tard, suffit d'y croire fort. Auprès des siens on trouve le meilleur réconfort. Un jour ou l'autre faudra qu'on parte. Avant faudra qu'on parle, histoire de rétablir le contact. Je suis fils unique, Dieu, j'ai comme petit cousin que je considère comme la prunelle de mes yeux. S'il a besoin d'aide, ma vie est la sienne. Qu'il en fasse, qu'il en veut, bref, faut que ça revienne comme à l'ancienne. Tous soudés, renouer les liens, faut qu'on soit tous soudés. Pour aller loin, faut qu'on soit tous soudés. Tous soudés, tous soudés.
Voilà, donc vous avez écouté un historique des combats menés depuis septembre 2020 par l'association Idir Espoir et Solidarité, déclenché en réaction à la mort suspecte d'Idir Médérès au Mitard, quartier disciplinaire de Lyon-Corba. Dans la continuité de ces luttes, il y avait donc le 18 et 20 septembre 2025, un week-end de commémoration de la mort d'Idir et contre les violences carcérales organisé par l'association Idir Espoir et Solidarité. Ils ont d'abord organisé une conférence de presse au cours de laquelle l'association et l'avocat de la famille sont revenus sur l'affaire et son traitement juridique, puisque la famille avait porté plainte la justice, comme presque toujours, a abouti à un non-lieu rendu par la juge d'instruction en juin 2025. Donc Naguib de l'association, puis Najet, la maman d'Idir, puis son avocat ont détaillé les éléments de l'affaire pour attester du caractère extrêmement suspect de ce décès et de son traitement partisan par la justice, qui n'a poursuivi qu'un seul objectif, valider la version de l'administration pénitentiaire, celle du suicide, et blanchir toute responsabilité du côté pénitentiaire. Donc voilà, on écoute dans l'ordre les interventions de Naguib, de l'association Idir Espoir et Solidarité, et de l'association des victimes des crimes sécuritaires. Puis on écoutera Najet, la maman d'Idir. Puis on écoutera Olivier Forêt, leur avocat, qui revient sur la procédure et décrypte la machine à blanchir l'administration et l'État, et qui insiste sur le fait que seules les mobilisations collectives pourront les faire fléchir.
Alors, donc, nous sommes aujourd'hui ici
pour en fait évoquer le non-lieu qui a été prononcé, l'affaire de Idir Médérès. Donc c'est un non-lieu qui a été prononcé en août. Alors d'habitude, on n'a pas pour habitude d'organiser des conférences de presse suite à un non-lieu. Voilà, souvent, le non-lieu est ressenti par les familles comme un traumatisme. Hein. Et donc, ce qui reste à faire, c'est l'appel à la Cour d'appel de Lyon ou alors la Cour de cassation lorsque la Cour d'appel a confirmé le non-lieu. Donc, on essaye, nous, depuis quelques mois, à savoir qu'on a repris pas mal d'arrêts des non-lieux. Et ces arrêts, on a pas mal d'éléments qui démontrent qu'il y avait moyen de poursuivre les agents pénitentiaires dans certaines affaires. Et ces éléments ne sont pas pris en compte d'abord par le juge d'instruction. Ensuite, lorsque le non-lieu est prononcé, ces éléments probants qui auraient pu démontrer qu'il y a une volonté d'éluder ces éléments au cours d'instruction, qu'il y a une volonté de renier ces éléments et de contourner ces éléments en appuyant la motivation qui confirme le non-lieu sur des éléments qui n'ont aucun intérêt pour nous. Et les éléments qui ont un intérêt pour nous ont été rejetés par la juge d'instruction, à savoir que dans l'affaire de Edir Médérès, il y a eu 9 actes qui ont été demandés par l'avocat qui est ici présent, Maître Forêt, il en parlera un peu mieux. Et ces actes ont été rejetés. Si ces actes avaient été pris en compte, on aurait sans doute avancé dans le dossier d'Edir Médérès. On aurait su beaucoup plus sur l'affaire, à savoir qu'il y a eu des vidéos, entre autres, il y a eu des coupures vidéo qui ne correspondent pas à la journée du décès d'Edir Médérès. Il y a aussi une insuffisance dans l'enquête, notamment sur l'heure du décès d'Idir. Il y a des images aussi qui ne correspondent pas à l'interphonie. Il y a aussi des déclarations des agents qui déclarent être à ce moment précis et sur les images, ils ne sont pas présents. Alors, tout un ensemble de faits qui fait que nous, il y a un peu plus d'un doute en fait. On a commencé par un doute, mais sur les éléments qui s'accumulent, c'est un peu plus, on va un peu plus loin dans notre enquête que douter du dossier. Quand on lit la motivation du non-lieu prononcé par la juge d'instruction, elle a contourné les éléments probants qui auraient permis de poursuivre l'enquête et elle a motivé son non-lieu sur des éléments qui ont peu d'intérêt pour nous, à savoir qu'elle s'est trompée sur un témoin. Il y a un témoin qui a publié une vidéo au sein de la prison. Donc on a tué son nom pour des mesures de sécurité, puisque la personne était encore détenue, à savoir la juge d'instruction a repris le nom d'un autre détenu qui n'a rien strictement à voir avec le détenteur de cette vidéo, qu'il a projeté donc publiquement dans les réseaux sociaux. Elle s'est trompée sur bon nombre d'éléments. Un défaut de motivation, ça équivaut à une absence de motivation. Et ces absences de motivation sont aussi sanctionnées par la Cour de cassation, par aussi des articles du Code pénal. Et je pense que nous, en tant qu'association, en tant que comité aussi Vérité et Justice, comité Espoir et Solidarité pour y dire, qu'on va désormais cibler sur ces absences de motivation, ou ces défaillances de motivation. Aussi bien pour des violences perpétrées par les policiers, les meurtres commis par la police, c'est aussi le même topo, c'est une absence de motivation. Et c'est un moyen aussi d'éluder et de passer à la trappe un dossier, et de faire en sorte que la famille des victimes ne bénéficie pas en fait d'un procès public. C'est juste d'instruction, lorsqu'il prononce un arrêt de non-lieu, donne raison à une seule partie, c'est-à-dire la partie qui est proche du système de l'État, les agents pénitentiaires ou la police pour d'autres affaires. Et on se rend compte que dans l'affaire de Idir, on a tenu compte des arguments que d'une seule partie et pas celle de la partie civile. Voilà, donc je vais laisser la suite à la maman de Idir, à Najet.
Bonsoir à toutes et tous. Votre présence réchauffe un cœur dévasté et donne du sens à ce combat que je porte depuis des années. Je suis Najet, maman d'Idir. Le 9 septembre 2020, On m'a annoncé la mort de mon fils au mitard de la prison de Lyon-Corba. On m'a dit suicide. Mais très vite, j'ai vu que cette version ne tenait pas. À partir de ce moment, je n'ai pas accepté le silence. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai fait des nuits blanches. J'ai fouillé les dossiers, relu des rapports, collecté des témoignages, pris des photos, parlé à d'autres familles. J'ai appris à lire des comptes rendus, à repérer les incohérences, à questionner l'officiel. Et ce que j'ai trouvé, c'est un cheminement qui m'a conduit à penser que la vérité nous avait été cachée. Je veux être claire sur ce que j'ai vu et sur ce que j'accuse aujourd'hui, avec toutes les preuves et témoignages que j'ai rassemblés. Sur le corps d'Idir, il y avait des marques, des hématomes, des blessures qui n'étaient pas expliquées par la version qui nous a été donnée. Des témoins d'autres détenus m'ont rapporté des pratiques inacceptables, des retenues arbitraires, des traitements humiliants, des pressions et surtout des éléments concrets qui montrent la violence du mitard. J'ai appris, et je le dis ici avec force, que mon fils aurait été privé d'eau et d'électricité au point qu'il a été contraint de boire l'eau des toilettes. C'est inhumain, c'est inadmissible. Ces pratiques ne sont pas des erreurs isolées. Elles viennent s'ajouter à un système qui écrase la surpopulation des prisons, le manque de moyens, l'absence de suivi psychologique et des quartiers disciplinaires, les mitards, où l'isolement peut devenir une violence mortelle. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène. Depuis 2020, on observe une augmentation des décès en détention. Le taux de mort parmi les personnes écrouées est alarmant et un pourcentage non négligeable de ces décès survient dans des quartiers disciplinaires. Ces chiffres sont froids, mais ils racontent une réalité brûlante. La prison, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, tue. Je pensais, comme beaucoup d'entre vous, l'auront peut-être cru un jour, que mon fils serait le dernier. Je pensais qu'après tant de scandales, tant de manifs, tant de luttes, après de témoignages, le système aurait changé. Mais j'ai découvert que non. D'autres souffrent, d'autres meurent, d'autres familles sont brisées. Mon chagrin ne doit pas être isolé. Il doit transformer en action et en lutte. Ce soir, je demande trois choses claires et non négociables. L'abolition des mitards, tel qu'il existe aujourd'hui. L'isolement disciplinaire, lorsqu'il se traduit par la coupe d'eau, la coupe d'électricité, l'absence de surveillance adaptée et l'humiliation, n'est pas une sanction acceptable dans une société qui se prétend humaine. Les mitards tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui doivent être supprimés. Avec des garanties indépendantes, transparence et moyens humains et médicaux. Des enquêtes indépendantes et approfondies sur toutes les morts suspectes en détention. Nous ne pouvons plus accepter des conclusions rapides, des classements sans suite, des non-lieux qui ferment la porte à la vérité. Les enquêtes doivent être menées par des instances réellement indépendantes avec accès de tous les documents et protection des témoins. Que les agents ou personnels impliqués dans des faits de violence ou de dissimulation soient poursuivis et jugés. Si les faits sont établis, je ne demande pas la vengeance aveugle, je demande la justice. Si des agents ont commis des fautes graves, s'ils ont couvert des actes, s'ils ont infligé des traitements inhumains, qu'ils rendent des comptes devant la justice. La responsabilité doit s'appliquer même derrière les murs. Donc je lance cet appel aux journalistes. Enquêtez, posez les questions difficiles, ne laissez pas la version officielle occulter les faits. Aux associations et aux collectifs et aux militants, continuez à soutenir les familles, à recueillir les témoignages, à organiser l'entraide au pouvoir public. Si l'État enferme, il assume la responsabilité de protéger la vie et la dignité des détenus. Je le dis encore une fois, avec le cœur lourd, mais la volonté intacte, personne n'est à l'abri. On est tous concernés. Nous demandons la vérité pour Idir, mais aussi pour des réformes concrètes, pour d'autres mères. D'autres pères, d'autres familles ne vivent pas la même horreur que je vis. ce soir avec nos avocats, avec mon avocat Maître Forêt, nous allons exposer le dossier, montrer les preuves, expliquer pourquoi le non-lieu est inacceptable et pourquoi nous n'abandonnerons pas et jamais. Nous sommes ici pour faire entendre les voix des disparus et pour exiger la justice pour tous, pour y dire et pour tous. Et merci de m'avoir écouté. Et merci encore une fois.
Bonsoir à tout le monde, Olivier Forêt, je suis avocat depuis 25 ans et j'accompagne Najette dans ce combat judiciaire depuis maintenant 5 ans. Depuis ce décès tragique en détention, alors je vais essayer de vous expliquer en quelques mots le dossier, ce qu'on peut voir de très caractéristique, de commun dans ce dossier avec malheureusement tous les autres dossiers de décès en détention. Peut-être aussi deux ou trois mots sur ce qu'est le mitard, la détention, la réalité, vous la connaissez, mais c'est toujours bien de le rappeler. Idir était en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il n'était pas jugé. Il était présumé innocent. N'oublions pas que la définition de la prison, c'est la privation de la liberté d'aller et venir, et c'est tout. Ce n'est pas la privation de tout, ce n'est pas la privation de la vie privée, ce n'est pas la privation de vos liens familiaux, ce n'est pas la privation de vos activités culturelles, ce n'est que la privation de votre liberté d'aller et venir. C'est ça, la définition de la prison. Sauf que la prison, ce n'est pas ça. C'est autre chose, c'est quelque chose qui est vécu comme punitif, c'est quelque chose qui est vécu comme étant nécessairement expiatoire par ceux qui sont confrontés en tant que citoyens à la prison, mais qui n'y sont pas confrontés à titre personnel. Et quand vous découvrez la réalité à titre personnel de ce qu'est la détention, c'est à ce moment-là que vous en saisissez toute l'inhumanité et tout ce qui peut constituer d'atteinte, évidemment, aux principes fondamentaux. Le mitard en est la conclusion. Le mitard, c'est la continuité de ces systèmes de privation de liberté qu'on avait combattus, que d'autres ont combattus par le passé. Vous savez, on parlait des QHS pendant un temps, les quartiers hauts de sécurité, c'était le cheval de bataille de Rouillan dans les années 80. Ça revient, les QHS, hein, je vous rassure, ça revient parce que le phénomène aujourd'hui est sécuritaire. Le mitard, c'est le lieu de sanction de la prison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de contrôle extérieur, il n'y en a strictement aucun. Le mitard, c'est lorsque vous avez commis un manquement disciplinaire. Le manquement disciplinaire, ça peut être par exemple de refuser d'intégrer votre cellule, tout simplement parce que votre cellule est un taudis absolu. Tout simplement parce que vous êtes victime de violences dans votre cellule. Tout simplement parce que vous êtes victime de brimades par des surveillants. Vous voulez simplement alerter sur cette situation. Vous refusez de rentrer dans votre cellule pour pouvoir parler à un chef de détention, pour pouvoir parler à la direction. Vous commettez un manquement disciplinaire. Tout simplement parce que vous voulez avoir un contact téléphonique avec votre famille. Voilà, un portable en détention. C'est un manquement disciplinaire. Tout simplement parce que vous fumez un joint en détention, c'est un manquement disciplinaire. Et tous ces manquements mis bout à bout, tous sont passibles du mitard. C'est-à-dire que le mitard, c'est un tribunal interne à la prison qui va être présidé par le directeur de la prison, qui va être accompagné d'une personne extérieure, mais qui est en fait quelqu'un qui est plutôt compliant avec l'administration pénitentiaire et qui va être complété pour le troisième par un agent de l'administration pénitentiaire. C'est la prison qui vous juge pour les manquements à la prison. Ça n'a de justice évidemment que l'apparence, ça n'a d'équilibre et de respect des droits que l'apparence, ça n'a de respect des droits de la défense que d'apparence, bien évidemment. Vous n'êtes pas d'accord avec la décision de vous placer au mitard. Vous faites un recours devant qui ? L'administration pénitentiaire, bien évidemment. Vous n'êtes pas d'accord avec l'administration pénitentiaire. Vous faites un recours devant qui ? Devant le tribunal administratif qui, au bout de 2 ans, vous dira que vous avez tort et que de toute façon, 2 ans après, ça fait bien longtemps que vous êtes sorti du mitard. Il n'y a absolument aucun contrôle extérieur. C'est un système répressif qui vit seul, qui vit en autonomie et qui échappe à tout contrôle. Alors, ce jour-là, on a eu le décès d'Idir dans des conditions dramatiques, mais surtout qu'on ignore. Et lorsque Najette me parle de ce décès, lorsqu'elle me parle de son fils, elle me rappelle que Idir allait sortir de prison, que le suicide n'a aucun sens par rapport à ce qu'il vivait. qu'il n'était pas connu pour avoir un profil fragile par rapport à un risque suicidaire, qu'il n'y avait absolument aucune raison, aucun motif à cela, et qu'il faut donc chercher les motifs ailleurs que dans la tête de son fils. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons tenté de faire. Et je le dis, si les familles sont seules pour affronter les décès, les familles n'y arriveront jamais. Les mobilisations comme les vôtres sont essentielles. La publicité de ces procédures dans les médias, c'est essentiel. Si vous n'êtes pas là, les décès seront confinés dans un silence le plus absolu. Et quand on parle de décès, Najed vous disait, ça augmente. Aujourd'hui en prison, les derniers chiffres de l'OIP chez EHPA, j'ai ceux de 2022, c'était un décès tous les 2 à 3 jours en prison. C'est 150 gamins qui meurent en prison, en France, par an. Et ça ne fait peur à personne, ça n'alerte absolument pas les pouvoirs publics. Donc si vous n'êtes pas là pour vous mobiliser, pour saisir les députés, pour saisir ceux qui ont éventuellement un peu de pouvoir, eh ben vous laisserez les familles se battre contre des moulins à vent et des gamins continuer de mourir en détention. Quand on parle du décès d'Idir, eh ben vous voyez, quand on est Najet, on respecte la loi et on fait un truc très simple, c'est qu'on va déposer plainte. Parce qu'on se dit que ça va un peu marcher quand même, parce que c'est pas possible. Donc ça va un peu marcher. On va voir un policier, un gendarme, parce qu'on y croit encore un tout petit peu. Bon, ça fait bien longtemps qu'on ne doit plus y croire, mais on y croit quand même encore un tout petit peu. Et puis là, vous avez la machine qui se met en route, qui est une machine en fait à blanchir l'administration, qui est une machine à blanchir l'État, qui est une machine à blanchir l'autorité, systématiquement. Et tout sera fait pour avoir la présentation la plus tronquée possible, avec l'apparence d'un peu d'investigation. Voilà. Alors, dans ce décès-là, on va saisir qui ? Oh ben, vous savez, c'est toujours le même mécanisme. On va aller voir la gendarmerie de Corba. Vous savez, celle qui vient toutes les semaines à Corba, qui tutoie les agents de l'administration pénitentiaire, qui leur fait la bise, qui leur serre la main. Comment tu vas ? Ça va ? La famille va bien ? C'est ceux-là qui vont être saisis de l'enquête pour aller enquêter sur leurs copains. Alors évidemment, c'est choquant. Et là, on va passer l'étape d'après parce que c'était un peu alertant et puis ça bougeait un peu. Ah, vous aviez une mère qui ruait un peu dans les brancards, qui gueulait, qui essayait de dire « mais il s'est passé un truc ». Alors là, on va avoir droit à la saisine d'un autre service de gendarmerie. Bon, c'est les mêmes. C'est les mêmes copains, c'est les mêmes qui vont systématiquement dans ce lieu privatif de liberté. C'est l'administration qui enquête sur l'administration. C'est tout. Alors ils vont faire quelques auditions, un tout petit peu. On questionne pas trop le fonctionnement du mitard, parce qu'il faut pas non plus aller creuser, brasser un peu la merde. Donc on va pas questionner ce fonctionnement-là. Vous avez quand même, dans les auditions, une surveillante qui va vous parler d'Idir, qui n'est pas là ce jour-là, mais on va l'entendre, parce qu'évidemment c'est elle qu'on doit entendre. On n'entend pas les surveillants qui sont là le jour de la découverte du corps. Non, on entend d'autres surveillants, qui sont peut-être un peu mieux à même de maîtriser leurs paroles, à mon avis. Mais elle va quand même expliquer que ces coupures d'eau, qui sont en dehors de tout cadre légal, ces coupures d'eau, c'est quotidien. Voilà. Il fait un peu chier celui-ci, on lui coupe l'eau, on lui coupe l'électricité. Je vous rassure, on lui donne 3 bouteilles d'eau. Bien sûr, on lui donne 3 bouteilles d'eau, détenu. Bien sûr. La réalité, c'est effectivement un gamin qui est enfermé dans sa cellule de mitard, de laquelle il n'a le droit de sortir qu'à peine une heure par jour pour aller tourner seul dans une courte promenade parce qu'on est au mitard et qu'on n'a aucun contact avec les autres détenus. La réalité, c'est que ça se termine par un gamin qui est obligé de boire l'eau des toilettes parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est ça la réalité du mitard. C'est un endroit où on vous met en dehors de tout contrôle extérieur, un endroit dans lequel on peut vous laisser 30 jours, et puis, si 30 jours ça suffit pas, vous savez, des manquements disciplinaires, on peut les accumuler, hein. Il suffit d'un rapport, une insulte à surveillant, de toute façon, il n'y aura personne pour contredire le surveillant. Et on peut y repartir au mitard. C'est très simple. La machine à broyer, elle fonctionne de manière très simple. Et il n'y a aucun contrôle extérieur. Alors il faut bousculer un peu le bordel, et il faut aller voir. Et il faut les mettre un peu sur le reculoir, il faut leur poser des questions. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaye de faire. Sauf que vous avez des gendarmes qui vous disent « Bougez pas, j'ai entendu les 3 témoins qu'il fallait circuler, il n'y a plus rien à voir. » On est désolé, madame, mais on est reçu par le procureur de la République qui nous dit « Mais on est vraiment désolé, on a tout fait. Hein. Si vous voulez, on vous donne le dossier, vous pourrez voir, on a tout fait. Hein. On n'ira pas au-delà, nous. » Comme à chaque fois. Comme pour toutes les familles de détenus qui vont décéder dans des conditions douteuses en détention.
C'est systématiquement le même process. On vous reçoit, on vous dit, mais vous voyez, on vous reçoit, la justice vous reçoit. Vous devriez être contente quand même que la justice accepte de vous recevoir. Pour vous parler de votre gamin décédé en vous disant, mais franchement, on n'a rien trouvé. Hein. Il s'est suicidé, votre gamin. Il n'était pas suicidaire, mais c'est pas grave. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, la seule chose qu'on puisse faire, c'est-à-dire saisir un juge d'instruction. Ben, ça veut dire qu'il faut le faire. Il faut du temps, il faut de l'énergie. Et ça a un coût aussi. Voilà. Parce que, évidemment, on doit se mobiliser. Parce qu'on doit mobiliser les énergies, on doit mobiliser aussi les finances pour ça. Parce qu'aller voir un juge, ça vous coûte. Voilà. Vous n'avez pas l'aide juridictionnelle, eh ben ça vous coûte. Et là, on va chez le juge d'instruction, on se dit, ben, le boulot va être fait. Ah, maître, on a saisi les caméras de vidéosurveillance du quartier disciplinaire. Merveilleux. Vous voulez les voir ? On vous les donne. C'est merveilleux. Là, cette caméra de vidéosurveillance, lorsqu'on ouvre opportunément une porte, elle est occultée, la caméra. Et on voit plus rien. Ah si, on voit des tas de gens qui passent derrière. Des tas de gens. Comprends pas comment ils font pour passer, parce qu'ils sont censés être deux. Mais c'est pas grave, on en voit 5-6 qui passent. C'est pas grave. Cette caméra, dont tous les surveillants savent que quand la porte est ouverte, elle ne filme plus rien, elle est un petit peu pratique. Quand vous avez la vidéosurveillance et que vous passez des heures, et je peux vous dire que Najette et le comité a passé des heures et des heures à regarder, à s'épuiser, à s'user les yeux à regarder cette caméra, que vous voyez un chariot qui surgit comme ça par magie dans le champ de la caméra, que vous voyez une porte qui bouge toute seule dans le champ de la caméra, vous vous dites quoi ? Ben, on se fout de notre gueule. Et que cette vidéosurveillance qu'on a saisie au bout de 10 jours, et pendant 10 jours, on l'a bien laissée entre les mains de l'administration pénitentiaire pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle voulait de cette caméra. Et bien au bout de 10 jours, on a récupéré un truc. Et on se dit, ben, on va bosser dessus. Pas de problème. Monsieur le juge, expertisez la vidéo pour savoir si par hasard on ne l'a pas modifiée. Donnez-nous les éléments techniques qui nous permettent de s'assurer de l'intégrité de cet enregistrement vidéo. Est-ce que le redatage qui figure sur la vidéo peut être ajouté après ? Des questions qui semblent tomber sous le sens. Parce que quand on a gratté, effectivement, l'interphonie, c'est quoi ? C'est quand vous êtes dans votre cellule, que vous voulez appeler le surveillant, vous avez un bouton. Vous appuyez sur le bouton, il y a une lumière qui clignote au-dessus de la porte de votre cellule. Et on a le relevé d'interphonie, c'est-à-dire les échanges, non pas le contenu de l'échange. Mais telle cellule, à tel instant, à telle heure, a sonné. À tel instant, réponse. Et quand vous prenez le relevé d'interphonie, un tableur Excel, bon, il faut quand même se spécialiser. Et effectivement, tu as raison, Najette, en disant bah, il faut apprendre à lire les rapports, il faut apprendre à lire aussi les relevés d'interphonie. Quand vous croisez le relevé d'interphonie avec la fameuse vidéo, bah, l'interphonie, elle ne correspond pas aux lumières qui clignotent. Bah, on se fout de notre gueule. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va le dire clairement, on va le dire simplement, on se fout de notre gueule. Soit le relevé d'interphonie n'est pas le bon, soit la caméra n'est pas la bonne. Mais il y en a un des deux qui ne va pas. Quand vous demandez à faire entendre tous les surveillants, qu'on n'entend pas tous les surveillants, bah, il y a un problème. Quand vous dites, eh ben, écoutez, pardonnez-moi pour les détails, mais je dois vous les donner. Le rapport d'autopsie, vous avez ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire qu'on a le contenu de l'estomac du défunt. Vous voyez, il faut aller se plonger là-dedans aussi. Que vous voyez le bol alimentaire, bah, vous dites, on va peut-être avoir effectivement le contenu des repas. Parce que ça peut être intéressant de comparer le contenu des repas. Le repas de midi, c'était quoi ? Parce que est-ce qu'il l'a mangé, le repas de midi ? Ou est-ce que c'est pas le contenu du bol alimentaire du matin ? Ben là, on vous dit non. Pourquoi ? On n'en sait rien. Quand on demande la production de tous les registres, parce que le contrôleur général des lieux privatifs de liberté a dit « Attendez, avec le Conseil d'État, attendez, en prison, on ne circule pas comme ça les mains dans les poches. On a des registres de tout. » Tant qu'avocat, quand je vais au quartier disciplinaire, je remplis le registre lorsque j'arrive au quartier disciplinaire. Je sors du quartier disciplinaire, je signe le registre. Et tout est consigné. Chaque personne qui rentre au quartier disciplinaire renseigne ce registre. Pourquoi on l'a pas, ce registre ? Pourquoi on nous le refuse ? Ou alors il n'est pas rempli. C'est une obligation légale. Ça pose problème. On fait une demande. C'est pareil, il y a un rapport d'autopsie. Il y a un examen médico-légal qui a été fait au départ à la demande des gendarmes, mais on dit que cet examen n'est pas suffisant. On a juste oublié un détail, c'est l'eurodatage du décès. C'est bien me dire, bah écoutez, on constate telle chose. Bon, on a constaté à minima, puisque malheureusement, Najette a été obligée de constater qu'il y avait d'autres traces sur le corps de son fils, qui n'étaient pas constatées par le médecin légiste. C'est extraordinaire.
Ça lui produire les photos à un médecin indépendant pour que le médecin indépendant dise « Bah oui, effectivement, ça c'est une problématique quand même, les bleus. Les bleus, c'est plutôt caractéristique de coups. » Un peu emmerdant quand on nous dit qu'il n'y en a pas eu. Et quand on dit « Bah écoutez, c'est ça, vous allez nous donner l'eurodatage de la mort. Le corps est découvert à 17h20, 17h25. » Ok, à quelle heure il est décédé, ils disent. Parce que, vous savez, on est au quartier disciplinaire, donc on fait le tour, il y a une vérification à l'œilleton, c'est obligatoire. Et puis, il y a eu l'infirmier qui est passé, et puis il y a eu un surveillant qui est passé. On le voit sur la caméra ouvrir la porte et la refermer. Alors, ça serait bien de pouvoir comparer ces heures de passage de ces intervenants avec l'heure du décès. Et là, Nagui a raison, j'ai jamais vu une estimation aussi large. Entre 30 minutes et 12 heures. Mais on se fout de la gueule de qui, en fait? On se fout de la gueule de qui? Il est décédé entre, en gros, 5 heures du matin et 17 heures. Et là, on vous dit, ah, mais je suis désolé, parce qu'en fait, moi, médecin légiste, vous m'avez demandé effectivement l'eurodata, je ne vous l'ai pas donné. Vous me l'avez redemandé par l'intermédiaire du juge d'instruction, vous avez fait une demande de complément disant que j'ai oublié d'écrire, pas de problème. Ben, en fait, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas la température du corps lors de la constatation médico-légale du décès. Ah ben écoutez, c'est pas un problème ça. On fait une demande d'acte, puisque ce sont des médecins qui sont venus, ce sont les pompiers qui sont venus. Eh ben on va demander aux pompiers, aux médecins des pompiers, de nous donner les informations, puisque si le médecin des pompiers a oublié ce geste essentiel de la prise de température du corps, il va falloir qu'il nous explique pourquoi. Ah ben non, ça, on n'y fait pas droit à cette demande d'acte. Et c'est une succession de demandes d'actes comme ça. On en a fait quelques-unes au fur et à mesure de l'enquête qui avançait, au fur et à mesure où on obtenait des choses. On disait, ah ben attendez, vérifiez ça en complément. Et puis, une fois qu'on a eu les carences évidentes de l'enquête, le refus systématique d'enquêter, et bien là, on a dit, bon écoutez, on va y aller simple, on va y aller carte sur table, et maintenant, vous allez nous faire 9 actes. 9 actes qui sont les actes de l'évidence, qui auraient dû être faits depuis le départ. Et bien, vous allez nous les faire. Et bien là, c'est refus. Refus, motivé par quoi? Oh, bah parce que c'est évident que c'est un suicide. C'est-à-dire que c'est vous, juge d'instruction, vous êtes là pour ça, justement, pour enquêter. Donc lorsqu'on vous dit, qu'on vous démontre que la vidéo a probablement été truquée, en tout cas qu'elle questionne sur son intégrité, la moindre des choses, c'est de vérifier l'intégrité de la vidéo. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un problème, que le médecin légiste dit, bah, je ne peux pas eurodater la mort d'Idir parce que je n'ai pas la prise de température par le médecin qui constate qu'il fait la levée de corps, pas de problème. On vérifie auprès du médecin qu'elle fait la levée de corps qui, je vous le dis, a forcément pris la température. Mais forcément, ça veut dire que cette information, elle a été perdue à un moment ou à un autre. Volontairement, involontairement, j'aurais tendance à croire volontairement, dans l'idée de dissimuler ce qui s'est passé. Voilà. Et ben, c'est tout ça, en fait, sur lequel on doit travailler. Et lorsque vous êtes victime, lorsque vous êtes la mère, lorsque vous perdez votre gamin dans ces conditions-là, lorsque vous le perdez alors qu'il va sortir tôt, que vous allez le retrouver au quotidien chez vous, que tous les matins vous pourrez l'embrasser, parce que c'est bientôt fini la détention, et qu'on vous appelle, on vous dit au fait, il ne va pas sortir, il est mort. Et qu'après, lorsque vous faites un peu confiance au départ dans ce système judiciaire, en vous disant, c'est un juge, c'est pas le policier, c'est pas le gendarme, c'est pas la prison, c'est un juge quand même. Et que vous vous investissez là-dedans, et que vous demandez des choses encore et encore, et qu'au final, vous prenez une porte dans la gueule, et qu'on vous dit, bon, on n'ira pas plus loin, parce qu'on n'ira pas vérifier ce que vous nous demandez de vérifier, parce qu'on ne va pas interroger les conditions de détention, parce qu'on ne va pas interroger l'administration pénitentiaire pour savoir si effectivement elle a des agents qui s'amusent à couper l'eau en dehors de tout cadre légal. Parce qu'on ne va pas interroger l'administration pénitentiaire pour savoir si par hasard, quand le surveillant il fait semblant de regarder à l'œilleton si quelqu'un est dans son lit et qu'en fait il est accroché à une barrière, on ne va pas aller lui demander parce qu'on ne va pas lui faire de problème. Parce qu'on ne va pas demander au surveillant lorsqu'il ouvre la porte et qu'il voit le corps accroché à la barrière, pourquoi il reste à l'extérieur ? Les mains dans les poches, quasiment en se marrant, en attendant, qui va appeler ses potes, et qu'il va falloir 5 minutes avant que les autres arrivent, et qu'on se pose la question de savoir, bah, tiens, on va peut-être aller ouvrir, et on va peut-être aller le décrocher. Bah, quand on refuse de faire tout ça, je vous le dis, la famille, alors a beau se battre, on aura toujours des juges qui vont valider. Aujourd'hui, on a eu une ordonnance de non-lieu qui a été rendue au mois de juin dernier. La motivation, c'est dire, bah, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un suicide, j'irai pas au-delà. Vous avez compris pourquoi on avait autant de questions, pourquoi on avait autant de mensonges auxquels on était confrontés et pour lesquels on a essayé de se battre et pour lesquels les juges ont systématiquement refusé, in fine, ce qui pouvait être douloureux pour l'administration. Eh bien, on a eu un non-lieu et on a fait appel de ce non-lieu. Voilà, en juin 2025, on a fait appel de ce non-lieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend d'avoir une autre audience où on va débattre avec trois juges de la cour d'appel de ce non-lieu dans le secret d'une audience qui n'est pas publique. Parce que de ça, on n'en parle pas publiquement non plus. Il ne faut quand même pas déconner des fois que les gens voient la maltraitance judiciaire. Et à cette audience, allez, spoiler alerte, la cour va confirmer le non-lieu. Je vous le dis. Parce qu'elle va nous dire, « Oh, mais attendez, maître, il est décédé en 2020, on est en 2000, c'est 2025 le non-lieu. Et puis, là, l'audience devant la cour, on l'aura en 2027. » 2028, maître, on ne va plus rien trouver, hein. C'est trop vieux maintenant. Donc on aura une confirmation de non-lieu. Alors quelles sont les chances et les espoirs? Eh bien que ça bouge, ça ne va peut-être pas forcément aboutir pour y dire, mais que ça bouge, que ça se mobilise, parce que c'est tous les deux jours, tous les trois jours qu'il y a un mort. On est jeudi, vendredi il y aura un mort, dimanche il y aura un mort, mardi il y aura un mort. Dans les semaines qui suivront, il y aura un classement sans suite et il y aura un non-lieu. Et tant que les choses ne bougeront pas, tant que les gens ne se mobiliseront pas suffisamment, on aura toujours des non-lieux. Alors évidemment, on aura un combat après, voilà, on aura un combat après qui sera d'aller voir la Cour européenne des droits de l'homme pour dire à la CEDH, une fois de plus, vous, condamnez la France parce que la France ne fait pas ce qu'il faut. Condamnez la France parce qu'un gamin qui meurt en détention, c'est une obligation légale pour la France de mener une vraie enquête. Un gamin qui se fait cogner par un flic, c'est une obligation légale pour la France de mener une vraie enquête. Pas ce qu'on nous fait aujourd'hui, des vraies enquêtes. Et si on a la force, si on a la motivation, parce que je vous disais, allez, 2028 pour l'arrêt de la Cour d'appel, on va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, 2030, 2031. Et peut-être qu'en 2031, on aura un arrêt de condamnation de la France qui nous dira « Franchement, vous avez rien foutu ». Vous, les juges français, c'est scandaleux, on condamne l'État français. C'est un bout de satisfaction. Mais on est en 2025, 2031, il y aura donc à peu près 150 à 200 morts en prison d'ici là, par an. Voilà. Donc mobilisez-vous, continuez, pour que le combat de Najet ne soit pas vain et qu'il prenne un peu de sens, que Idir ait un peu de sens dans ce décès qui n'en a aucun, dans la vie qui était la sienne. Voilà la seule chose que je pouvais vous dire en l'état.
Mais que faire alors?
Gueuler, saisir ses députés, saisir la justice, les interpeller, communiquer.
They want me dead. They want me dead. Put that price on my head.
No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. Crossing my mind, put that shit on my life. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. You never crossing my mind, put that shit on my life. This is the shit I've been talking about. This is the shit that been said. Niggas, they chasing their dreams. They just been after my head. All of my demons keep telling me, don't you react, cause you'll get you a felony. Work on your balance, and I'm talking chemically. Call up my shooter and aim at your melanin. I do not swim in a pool full of jealousy. Take out the sheriff, then body the deputy. Stick to my stomach, my money the remedy. I am the legend, don't fuck up my legacy. Private numbers, keep calling my phone.
Hello?
No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. You never crossing my mind. Put that shit on my life. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. You never crossing my mind. Put that shit on my life. Give me a reason to snap. I put the scene on the map. I know the niggas who been talking down, but whenever they see me, the first ones to dab. Look at my record, nigga. I can't respect you, nigga. I am the golden child, been getting older now. It would make sense why you boys get no recognition. They want me dead or alive. Someone told my mama won't see 25. Mean I can tell her, but I just do not wanna be there to witness the tears in her eyes. Koozie been back on the road. Koozie still sucking the cold.
I've been second guessing like there's someone better than me or my city. Wait. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. You never crossing my mind. Put that shit on my life. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. You never crossing my mind. Put that shit on my life.
Niggas look like virgins. Washed up on the tide of detergent. I feel like Ja back in 99. Niggas see me scream murder. I walk around and scream murder. Nowadays everybody get murdered.
The judge asked for the verdict. Then he looked at the jury.
Voilà, vous êtes toujours dans l'émission de L'Envolée sur 106.3 FM, Radio Fréquence Paris Pluriel à Paris, rediffusée dans une quinzaine de villes et de radio associative en France, L'Envolée, émission contre toutes les prisons. Donc avant la musique, on a écouté des extraits de la conférence de presse organisée par l'association IDIR Espoir et Solidarité en réaction au non-lieu qui a été rendu suite à la mort d'Idir Médérès au Midard de Lyon-Corba. L'idée, c'est que si l'association a publié son travail d'enquête et sa dénonciation du fonctionnement de la justice, c'est pour que nous, maintenant, nous fassions circuler ces paroles. Nous racontions partout où nous le pouvons le fait qu'il est évident que la justice n'a pas pris au sérieux cette mort et a cherché à blanchir l'administration. Donc tout ça, pour rappel, c'était à l'occasion du week-end du 18 au 20 septembre 2025. Ce week-end a fini par une manifestation. On va maintenant écouter le discours de clôture de Najet, la maman d'Idir, à la fin de cette manifestation le 20 septembre à Lyon.
Mort au mitard de la prison de Lyon-Corba. On a voulu classer l'affaire. On a voulu éteindre la vérité. Les preuves que nous avons, les incohérences du dossier, les traces de violence sur son corps, tout cela montre que la vérité a été étouffée et est cachée. Aujourd'hui, je marche avec vous pour dire non au non-lieu. Non à cette justice qui ferme les yeux. Non à ce système carcéral qui détruit des vies. Depuis 2020, combien de jeunes sont encore morts en prison, dans des conditions suspectes? Combien de familles pleurent leurs enfants? On nous répète, suicide, toujours suicide. Mais derrière ces mots se cachent trop souvent des violences, des humiliations, des mitards inhumains. Dans ces mitards, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on isole les détenus, nous disant que ces lieux doivent disparaître. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Les enquêtes sont bâclées. On ne cherche pas la vérité. On se contente de la version officielle. Des expertises ignorées, des témoignages oubliés, des familles laissées seules face à un mur de silence. Alors je pose cette question. Pourquoi est-ce aux familles de devenir les enquêteurs, les médecins légistes, les chercheurs de vérité? Pourquoi moi, une mère endeuillée, ai-je dû travailler jour et nuit, fouiller les rapports, examiner les photos, relever les incohérences, interroger les témoins pour mettre en lumière ce que la justice aurait dû voir dès le premier jour? J'ai fait ce travail au prix de nuits blanches, au prix de ma santé, au prix de mes larmes, parce que je ne pouvais pas laisser mon fils mourir une deuxième fois dans le mensonge. Et je demande, pourquoi eux, ceux qui sont payés, ceux qui portent la robe, ceux qui se disent gardiens de la justice, n'ont pas fait leur travail correctement? Justice, où es-tu quand il fallait chercher la vérité? Justice, pourquoi ai-je dû me substituer à toi? Justice, pourquoi protèges-tu les murs plutôt que les vies?
Justice, pourquoi refuses-tu d'écouter les familles qui portent les preuves à la main? Je le dis haut et fort, ce sont les familles qui font le travail de la justice. Et c'est un scandale. Nous ne devrions pas être nos propres enquêteurs. Nous ne devrions pas nous battre contre des dossiers vides, contre des mensonges officiels, contre des classements sans suite. Nous devrions avoir en face de nous une justice courageuse, indépendante, qui cherche la vérité avec nous. Nous ne demandons pas la vengeance. Nous demandons la vérité et justice. Ce sont des droits fondamentaux. Ce sont les bases de toute démocratie. Et tant que la justice ne fera pas son travail, nous continuerons à le faire à sa place. Parce que nous refusons d'abandonner nos enfants. Nous dénonçons un système qui protège plus les surveillants que les victimes, qui préfère fermer les yeux que regarder les preuves. Nous exigeons que les responsables soient jugés, que les mitards disparaissent et que cessent ces violences qui tuent en silence. Je m'adresse aux juges, aux procureurs, aux responsables politiques. Regardez-nous, regardez les familles, regardez notre douleur. Jusqu'à quand allez-vous détourner les yeux? Jusqu'à quand allez-vous laisser mourir nos enfants derrière les murs? Aujourd'hui, je veux dire à toutes les familles, vous n'êtes pas seuls. À tous ceux qui nous soutiennent, votre présence nous donne la force. Ensemble, nous faisons entendre une voix qu'on ne pourra pas étouffer. Nous marchons pour y dire, nous marchons pour toutes les victimes. Nous marchons pour la vérité, pour la justice et pour que plus jamais une mère n'ait à enterrer son enfant à cause des violences carcérales ou violences policières. Merci.
Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission de L'Envolée. Je rappelle, une émission spécialement consacrée aux mobilisations contre la mort suspecte d'Idir Omitar de Lyon-Corba en septembre 2020 et pour retracer 5 années de lutte pour la vérité et contre tous les mitards. Donc si vous voulez en savoir plus et suivre ces combats, vous pouvez suivre l'association Idir Espoir et Solidarité sur Facebook, qui ne doit peut-être pas être à jour, mais surtout sur Instagram, nous sommes Idir69. Vous pouvez aussi retrouver des archives de ces luttes sur la chaîne YouTube Espoir et Solidarité Idir. Je rappelle qu'une grande partie des sons diffusés dans cette émission, ils nous ont été fournis par l'émission contre les prisons La Petite Cuillère de Lyon, qui est diffusée sur Radio Canu. Donc La Petite Cuillère, vous pouvez les retrouver sur le blog de Radio Canu à Lyon. Et aussi, elles ont une page Facebook. Vous pouvez aussi suivre les luttes, les mobilisations des personnes mutilées par la police et des proches de personnes décédées en détention ou entre les mains de la police. Vous pouvez suivre ces combats sur les pages du réseau Entraide, Vérité et Justice sur Facebook et sur Instagram. Si vous voulez retrouver la pétition contre les mitards, elle est un peu vieille, mais vous pouvez la retrouver sur mesopinions.com, pétition pour radier les mitards. Je peux vous conseiller aussi un film, un documentaire qui s'appelle « Mitard, l'angle mort » de Laurence Deleure, qui est un des rares films un peu grand public documentaire qui revient précisément sur la violence pénitentiaire qui se joue dans les mitards. Et beaucoup plus confidentiel, un petit blog qui s'appelle « Fermez les mitards » sur overblog.com qui présente en quelques vidéos ce que c'est que le mitard et pourquoi il faut lutter contre. Voilà, voilà. En agenda, eh ben, vous pouvez noter, si vous êtes sur Lyon et ses environs, que le 15 novembre 2025, dans le cadre d'un week-end contre le racisme, les violences policières et pénitentiaires, il y aura à Lyon une manifestation, départ place Bellecour à 15h, et le soir, une projection débat à partir de 18h à l'atelier des canulars à Lyon. Le tout est organisé par l'association IDIR Espoir et Solidarité et l'association des victimes des crimes sécuritaires, donc que vous avez entendu parler au cours de cette émission, notamment dans la conférence de presse. Que vous dire de plus? Les musiques de l'émission, qu'est-ce qu'on a écouté? Eh ben, avant tout Soul King, parce que les chansons de Soul King, c'est le son qui accompagne la mémoire d'Idir depuis son malheureux décès et les combats de sa maman. On a écouté et on va réécouter un peu Laura Luciano, quelques petites vieilleries qui font du bien. Et on a écouté aussi Jazz Quartier, excusez-moi pour l'accent anglais innommable. Je vous rappelle les contacts de l'Envolée, écrivez-nous. Par la poste, c'est à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez nous contacter sur un téléphone portable 07 53 10 31 95. Laissez un message sur le répondeur ou des textos. Essayez aussi par signal si vous pouvez. Par email, contact@l'envolée.net. Et nous suivre sur le site internet l'envolée.net, la page Instagram l'envolée journal. Voilà, pour finir cette émission, une grande pensée à toutes les personnes, tous les proches qui luttent suite au malheureux décès de leurs proches dans les mains des agents de l'État, qu'ils soient en prison ou de policiers. Et aussi plus largement, une grande pensée à tous les prisonniers, prisonnières et à leurs proches. On rappelle que quand il y a des morts suspectes en prison, c'est souvent par la force du témoignage et des protestations d'autres prisonniers et prisonnières que dehors on sait ce qui se passe. Voilà, grosse pensée à tous les proches, à tous les prisonniers, toutes les prisonnières. Et bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement. À vendredi prochain.
C'est l'impact. Je m'en fous. Je bloque des heures des fois pour écrire un texte. Et même quand je le fais, je suis pas content. Mais fais avec, hein. D'après toi, un jour pourrais-je quitter FF, mon équipe, ma clique, le ref, ma famille et tous les kids. Certainement quand je serai mort, t'en auras le cœur net. Le texte donne une image sombre mais honnête. Mentalité intacte, question fidélité, toujours en contact. Nique le tact, pour mes chers, ce qui compte c'est l'impact. Voilà un petit classique du genre, envoie quelqu'un acheter un pack. Dégoupille la grenade, faites ça, réveille ce qui roupille. Oublie les jours et les soirs, haine, oublie la routine. Comment l'accoutumer, démontrons aux aisés qu'on est très à l'aise et aux zinzins qu'on comprend leur malaise et leurs besoins. Les véritables émotions, les véritables expériences de vie, cousin. Ils bénéficient de toute mon estime. Les gens de la zone savent vivre, et je le dis en toute modestie. Vivre comme eux, c'est la classe, la vraie. Au moins j'ai ce qu'ils vont au charbon, si ça te gêne, la vraie. Je m'adresse aussi bien aux fans qu'aux indifférents. On a tous des problèmes, à des degrés différents. À vrai dire, je t'apprends rien que tu ne connais pas. Mais dire le contraire, je pense pas que tu puisses. Rien à foutre de leur révélation. Et merde, c'est pour quand la révolution? Et mec, nique l'État, ministre, flic et leurs interpellations. Ils aillent se faire mettre. C'est louche. On le dira même en interview. On est fasciné par la classe ouvrière, la vie des voleurs et celle des voyous. Dieu est infiniment grand et ses anges parmi nous. On sait donc ce qu'on a de meilleur en nous. On le dira même en interview. On est fasciné par la classe ouvrière, la vie des voleurs et celle des voyous. Dieu est infiniment grand et ses anges parmi nous. On sait donc ce qu'on a de meilleur en nous.
Puisque l'État a laissé trois calibres, sac le Tchanorov. Range ton calibre, on tient nos rof, on aime nos rosses. Parler tout et de rien, c'est ça le thème. Mine de rien, ce morceau tu vas le remettre parce que c'est ça le thème. Qu'ils me disent pas que c'est pas ce que les gens veulent entendre. Qu'ils me disent pas qu'ils s'attendent à ce que je sois tendre. Putain, ils vont m'entendre. Déterre ceux qui vendent, qui achètent, qui taffent avec le doigt sur
sur la gâchette. Les braves qui pèsent en cachette. À tous mes frères en couchette, morale et santé, mais c'est dur. Ceux qui passent aux assiettes, je vous souhaite un vice de procédure. Au fait, si tu mets une carotte, on te met une courgette. Le bar t'es ouvert, je te parle pas de couteau ni de fourchette. J'irai toujours aussi loin dans mes propos. Pétard, fais joint de popo. Même si ça change rien, c'est pas grave, ça fait du bien gros. Tu m'as peut-être reconnu, mais tu connais pas par cœur. Tu peux pas imaginer la taille de mon amour et de ma rancœur. C'est pas le joint qui se consume, mais le mec qui le fume. Augmente le volume, c'est pas le feu qui brûle, mais le mec qui l'allume. C'est pas la voiture qui roule vite, mais c'est le mec qui speed. C'est pas la drogue qui drogue, mais le mec qui sniff, qui speak, tu gobes. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, ah ouais. C'est pas le distributeur qui fait de l'argent, mais le mec qui retire, bah ouais. C'est pas le micro qui fait le public, mais l'artiste qui attire. Autrement dit, c'est pas le flingue qui tue, mais le mec qui tire. Ce 23 juin, j'ai l'aspiration meurtrière. Suis-je la rue de ses phrases, tu remarqueras que le meurtrière. Suite au climat, notre vie stress. Suite aux phases qu'on traverse. Place ta verse, nos phrases qui te bouleversent.
Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Des vidéos aux gens durs, non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Des vidéos aux gens durs, non une vie dure.
À ma mort, j'aimerais qu'on dise de moi, on n'a jamais vu ce gangster. Notre connaissance était ni un bandit, ni un gangster. Juste un gars quelconque de la rue, gardien de ses frères. Et le peu de bise foireux qu'il a eu à faire l'ont jamais rendu fier. Des jeunes susceptibles d'atterrir en toile, y'en a des files entières. J'en ai été en me faisant coincer par la financière. Ce jour-là, j'ai plus eu peur de la réaction de ma mère. De la privation de liberté, de la cellule des barreaux en fer. Avec du recul, c'était même pas de la survie. J'ai toujours bouffé à ma faim, je pense même avoir été bien élevé. J'aurais tout gâché comme ces gosses de riches qui ont tout pour être heureux. Sauf qu'à la base, j'avais moins que mais je suis pas plus con. Je vais pas dire voir leur mieux ni m'affoler. Je sais ce qu'il me reste à faire pour me payer tout ce dont j'ai tendance à raffoler. Depuis que j'ai goûté à l'argent de ce rap, je peux plus m'en passer. On m'a pas demandé de rester pauvre, mais juste de rester vrai. Ma jeunesse, plutôt la gâche, j'écris n'en faire du tout. Je me le dis chaque jour, dès que j'ouvre les yeux, dès que j'écris un truc sans détour. Je pense que je vois les miens traités inégalement. Poussé à prendre des risques et à vivre illégalement. Nos vies ressemblent à des films, John est le scénariste. On est dans le couloir de la mort, mais est-ce le diable qui le réalise? Si mon heure est venue, j'ai pas de dernière volonté. Qu'on en finisse, qu'on en parle plus. Toi qu'en dis-tu, merde? V-R-O-H-W-F, Luciano Sat, l'artificier, section nique tout FF. Mafia Kenfri,
dédié aux gens durs, maintenant une vie dure.
On reste honnête du moins tant qu'on peut.
Si on prend des risques, c'est pour garder le rythme.
Nique l'État, c'est nous contre eux. On reste à la hauteur des circonstances tant qu'on le peut. On compte que sur nous, vu que pour on compte peu.
Ils peuvent pas nous voir, mais y'a pas besoin de leur amitié.
Ils veulent pas le savoir, mais ils veulent pas lâcher la moitié.
Ces enfants, ils veulent pas nous croire, car ils ont d'autres projets.
Je n'ai pas d'accord,
ils ont le pouvoir
de nous faire plonger.
On reste honnête du moins tant qu'on peut.
Si on prend des risques, c'est pour garder le rythme.
Nique l'État, c'est nous contre eux. On reste à la hauteur des circonstances tant qu'on le peut. On compte que sur nous, vu que pour eux on compte peu.
Ils peuvent pas nous voir, mais y'a pas besoin de leur amitié.
Ils veulent pas que ça va, veulent pas lâcher la moitié.
Ces enfants, ils veulent pas nous croire, car ils ont d'autres projets.
Et si on est pas d'accord,
ils ont le pouvoir
de nous faire plonger.
Si on est pas d'accord,
ils ont le pouvoir
de nous faire plonger.
Et si on est pas d'accord,
ils ont le pouvoir
de nous faire plonger.
Et si on est pas d'accord,
ils ont le pouvoir de nous faire plonger.
Et si on est pas d'accord,
ils ont le pouvoir
de nous faire plonger.
Dédié aux gens durs, non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Dédié aux gens durs, non une vie dure. Faut savoir où tu es, tu vas qui tu es. Thank you.